France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, nous célébrons les Chevaliers de la Table Ronde, un opéra bouffe d'Hervé en tournée dans toute la France depuis le mois de novembre, et ce n'est pas fini. Pour en parler, je reçois Christophe Graperon, directeur musical de la compagnie Les Brigands, et Alexandre Dradvicki, responsable artistique du Palazzetto Bruzane, auquel on doit la redécouverte de cette œuvre dont nous entendrons de larges extraits. En fin d'émission, deuxième partie de la chronique de Martin Péné consacrée à Georgius. Mais pour commencer, je vous propose une petite histoire d'amour entre Paris et banlieue.
Elle, c'était Eugénie, et elle arrivait de Beaulieu. Et lui, c'était un petit titi de la banlieue.
Une histoire d'amour qui commence très bien. Il la rencontra un beau soir au cinéma. Aussitôt assis près de son fauteuil, il sourit en lui faisant un clin d'œil.
Elle lui répondit d'une pression du pied.
Il se mit à bredouiller. Comment que c'est que vous vous appelez?
Eugénie, et j'ai de bons yeux.
C'est à Paris que vous habitez?
Non, j'arrive de Beaulieu.
Sacré Eugénie de Beaulieu.
Quel cheveu.
Elle a un tas de choses qui font voir la vie en rose. Il ne savait pas qu'elle lui plairait tant cette pile potin de lilas blanc.
Malgré son rire bête,
à répétition, elle avait de la conversation.
Je suis crémière à Beaulieu, je balberai, je mire les œufs. Je suis venu à Paris, c'est pour trouver un mari.
Sacré Eugénie de Beaulieu,
fit le petit titi de banlieue.
Il ne faut pas penser au mariage chez les modés.
Viens mon Eugénie, je vais te faire visiter tous les coins cachés de mon quartier. Et si ça te plaît pas qu'on soit tous les deux, je me passerai de tes beaux yeux.
Fâche pas mon petit titi, c'est le printemps, partons d'ici. Je t'emmène voir chez ma sœur les mirabelliers en fleurs.
Je m'en fous de tes mirabelles. Ce qui me plaît, moi, c'est la bagatelle. L'amour, les petits oiseaux, une femme, et puis des marmots. Qu'est-ce que j'ai dit là? Ça y est, je suis fichu. Ma vie de garçon, eh ben salut. Elle va me traîner par le bout du nez, devant le maire et le curé. Allez. Eh bien, mon Eugénie.
Allez, Eugénie. Une histoire d'amour qui finit très bien.
Ah, le rire d'Eugénie de Beaulieu. Je ne sais pas lequel des frères Jacques se chargeait de cette partie du morceau. En tout cas, voilà une chanson que j'aime beaucoup et qui est signée du regretté Rissé Barrier. Oui, Rissé Barrier, qui adorait la campagne où il vivait la plupart du temps, mais qui était aussi visiblement très attiré, très intéressé par la banlieue, comme en témoigne cette autre chanson de la même année, 1958.
La dame de Riss-Orangis arrive et garde Austerlitz chaque matin à 8h moins 10. La dame de Riss-Orangis vérifiait les signatures au ministère des fours. Ni du et du matin au soir, derrière son lorgnon on pouvait la voir accoudée à son guichet, en train de tamponner et d'estampiller les récépissés. La dame de Riss-Orangis repartait garde Austerlitz tous les soirs à 6h26. Un jour sous le tunnel, un monsieur séduit par ses prunelles se pencha pour l'embrasser. Quand revint la lumière, il avait les deux joues oblitérées. La dame, mon vieux, de Riss-Orangis était le cerbère, c'est sûr, du ministère des fours. Ni dur. Et lorsque des gangsters vinrent faire un casse dans la caisse du ministère. Elle se tint cachée derrière une pile de dossiers et elle les étendit à grands coups de tampon sur le tapis. Dédé la paluche tamponné. Bobby les bigoudis tamponné. Dario l'impétigo tamponné. Et Fifi l'agonie autant poney. La dame Doris Orangis obtint la médaille vermeille, page 3 du journal officiel. La dame Doris Orangis, au cours d'un grand dîner, reçut un tampon doré. Aussitôt elle l'a essayé sur le crâne du député, des maîtres d'hôtel et des huissiers, et tout ce qui était à sa portée. Mais le scandale fut étouffé et elle fut mutée au service des timbrés.
L'orchestre de Frank Haussmann en octobre 1958 avec la voix de Richer Barrier qui avait co-signé comme presque toujours cette chanson avec son ami Bernard Leloup, regretté Richer Barrier qui nous a quittés il y a 5 ans mais que j'avais eu le plaisir de recevoir au tout début de cette émission. Tiens, faudra quand même qu'on y revienne un peu plus longuement un de ces jours. Mais pour l'heure, on va prendre le train avec le grand orgue du Régal Cinéma d'Edmonton. On peut en faire des choses avec un orgue, hein, surtout quand c'est un orgue de cinéma extraordinaire comme on en faisait avant-guerre. Ici, l'orgue d'Edmonton, près de Londres. Et puis avec, en plus, évidemment, tout le talent de ce musicien extraordinaire qui était Monsieur Sidney Torch dans ce morceau intitulé Orient Express, c'était aussi mon petit clin d'œil au train de nuit. Vous savez, il y a un ministre français qui nous a annoncé hier que les trains de nuit, c'était fini maintenant, il n'y en aura plus du tout. Alors, beaucoup de nostalgie pour moi qui aimais tant le train bleu, les réveils à la gare de Lyon, les wagons-lits, toutes ces choses merveilleuses, voilà, qu'on ne pourra plus retrouver que dans les films, au cinéma, et puis aussi, heureusement, un petit peu dans les chansons.
Reisen gemütlich die Eisenbahn mit Lokomotive und Wagen daran. Besonders bei Reisen während der Nacht, drum hat man da eine Erfindung gemacht. Ach ja, im gewöhnlichen Bahncoupé.
Voilà, ça c'était ce qu'on va entendre maintenant, une opérette de Monsieur Léo Fall qui justement rend hommage au train de nuit. Vous savez, en ce moment, je vous parle des opérettes viennoises d'avant la guerre de 14. Ces opérettes viennoises d'avant la guerre de 14, on les a évoquées la semaine dernière avec Franz Lehár et son comte de Luxembourg. Et Léo Fall, qui est un des grands maîtres du genre, qui a écrit beaucoup de succès, a écrit en 1907 cette opérette qui s'appelle « La divorcée », créée à Vienne en 1908. C'est l'histoire d'une femme qui voyage notamment, justement, dans les wagons-lits. Et les wagons-lits, elle les chante même dans ce très joli morceau intitulé les Schlafcoupé, ça c'est le wagon justement le wagon de nuit très confortable, c'est d'ailleurs le thème de ce morceau qu'on va entendre. Bei Reisen genügt nicht die Eisenbahn, quand on se déplace, il ne faut pas seulement un train, il faut aussi un wagon très confortable où on peut se coucher, peut-être avec son amoureux.
Reisen gemütlich die Eisenbahn mit Lokomotive und Wagen daran. Besonders bei Reisen während der Nacht, drum hat man da eine Erfindung gemacht. Ach ja, im gewöhnlichen Bahncoupé, wie tun da die Glieder doch alle so weh? Wenn sitzend man schläft, nicht krumm und nicht gerad, in Stellungen na wie ein Akrobat. Was brauche ich da noch umzuschweifen? Denn jeder wird begreifen, dass damals in der Nacht ich nur daran gedacht.
Woran denn, meine Gnädigste?
Oh Schlafcoupé, ach wärst du heute mein? Es gibt Filme ohne Schlafcoupé. Schlafcoupé, ach wärst du heute mein. Ich bin bescheiden, will's nicht nur für mich. Ich nehm's auch, wer will zu zweit.
Wie diese Person sich aufführt.
Charmant, entzückend, einfach reizend.
Im Schlafcoupé, oh, das ist ein Genuss. Da zieht man sich auch aus vom Kopf bis zum Fuß und kuschelt sich in die Decke hinein. Ach, das tut gut und das ist fein. Es rattern die Räder, ein Schlummerlied. Man streckt sich aus so behaglich und müd und das rüttelt und schüttelt. Man träumt auch dann viel süßer, als man im Bett es kann. Was brauch ich da noch umzuschweifen? Ein jeder wird begreifen, dass damals in der Nacht ich nur daran gedacht.
Annie Schlem dans ce très joli morceau extrait de Die geschiedene Frau de Léo Fall, donc La divorcée, une opérette viennoise de 1908 avec l'orchestre de la radio de Munich sous la direction de Werner Schmidt-Boelke. Une petite précision quand même, toutes les lignes de train de nuit françaises disparaissent sauf deux dont le Paris-Briançon, ce qui permettra à notre ami Jean-Christophe Keck de venir quand même encore de temps en temps nous donner sa chronique à ce micro. Mais restons maintenant un peu viennois avec Fritz Kreisler. J'aime beaucoup cette version de Sean Rosemarine arrangée par Gilles Lapape et sa bande de musiciens. Mais sans plus tarder, nous allons retrouver les Chevaliers de la Table Ronde, une œuvre oubliée du grand Hervé, une œuvre qui est à l'affiche un peu partout en France et ça n'est pas fini. Prochainement, ce sera à l'Opéra de Rennes et puis à la fin de l'année à Paris. Pour en parler, je reçois le directeur scientifique du Palazzetto Bruzane, cette extraordinaire fondation de Madame Nicole Bru qui permet de redécouvrir les trésors oubliés de la musique française. Et je reçois le directeur musical du spectacle et de la compagnie Les Brigands, mes deux invités aujourd'hui, Alexandre Dradvicky et Christophe Graperon.
Toujours pas voie et pas chemin, nous battons la campagne. En France, on nous voit le matin et le soir en Espagne.
Pour ceux qui prennent plein d'agréments,
pour remplir l'aventure,
ceux qui gagnent le plus souvent,
ce sont les anges lunes. Je t'aime,
que joli métier,
je suis dans le monde.
Six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
Et dans les chevaliers de la table ronde, il faut bien qu'il y ait une ronde des chevaliers. Voilà. Elle se situe où dans l'ouvrage d'ailleurs, Christophe Grappon?
C'est la fin du premier acte. C'est le final du premier acte.
Final du premier acte. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour Alexandra Dvicky. Heureux d'être avec vous pour parler de cette œuvre. Tout de suite, un petit commentaire sur ce qu'on vient d'entendre. Donc cette ronde enjouée dans une version... Donc légèrement revu par Thibaut Perrine.
Exactement, une réorchestration de Thibaut Perrine. L'orchestre d'Hervé est beaucoup plus important. Et Thibaut a fait une réorchestration pour 12 instrumentistes. Donc on a gardé le quintet à cordes, le quintet à vent, flûte, clarinette, basson, cor, trompette, et piano et percu.
Voilà, et le chœur qu'on entendait, ce sont tous les chanteurs de la production.
Tous les chanteurs, donc 13 chanteurs.
C'est un gros plateau de solistes.
Voilà, 13 rôles, et ces rôles font également les chœurs. Ouais.
Voilà, et donc cette version un petit peu réduite permettait, j'imagine, de faire tourner l'ouvrage plus facilement.
Plus facilement, et puis en fait, par rapport à l'effectif choral, on s'aperçoit que les passages de chœur sont assez réduits et nerveux. Ouais. Et en fait, ça correspond super bien à 13 chanteurs. Et quant à l'orchestre, je trouve que Thibaut arrive à faire sonner 12 instrumentistes, comme si on était un peu plus. Quoi.
Alors, Alexandra Dvicky, vous êtes au Palazzetto Bruzane, vraiment l'homme qui nous permet de redécouvrir des quantités d'ouvrages lyriques, notamment, et pas seulement depuis des années, et maintenant aussi des opérettes. Avec Christophe Grappon et la compagnie des Brigands, vous avez choisi de mettre l'accent sur cette œuvre d'Hervé. On reviendra peut-être tout à l'heure sur la question pourquoi celle-là plutôt que d'autres, mais d'abord, pourquoi celle-là précisément, pour qu'est-ce qui vous a plu dans ces Chevaliers de la Table Ronde?
Le titre. Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, quand on veut programmer des raretés absolues où il n'y a ni le nom du compositeur, ni le nom de l'ouvrage qui est passé à la postérité, il faut absolument un titre qui à la fois intrigue et séduise. Et je pense que les Chevaliers à Table Ronde, aujourd'hui, vous savez, il y a une émission, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, il y a un petit truc parodique du Moyen-Âge qui passe sur Camelot.
Camelot, oui, c'est ça.
Voilà, pour certaines
tout
personnes.
Tout le monde sait ce que c'est.
Voilà, une quotidiennité avec ce répertoire-là, ou cet imaginaire-là. Et du coup, je dois dire que je pense qu'une des raisons qui ont permis 35 dates dès cette première saison des Chevaliers, c'est simplement que certaines salles étaient tout à fait séduites par le titre de l'ouvrage.
Voilà. La série télévisée à laquelle vous faites allusion a beaucoup de succès, donc en se moquant, en parodiant donc cette grande légende médiévale. Et au fond, c'est un peu la même chose que fait Hervé au 19e siècle.
C'est complètement la même chose.
C'est
oui,
ça.
Absolument.
Avant
oui.
l'heure, on peut dire qu'il annonce cet esprit de la parodie. D'ailleurs, on l'a comparé parfois au Monty Python ou à tous ces grands maîtres.
Alors,
du genre.
Pas longtemps après, il va y avoir cette belle Hélène d'Offenbach qui, bon, alors c'est pas le Moyen-Âge, c'est l'Antiquité, mais donc tout le principe de cette époque dans l'opérette, lorsqu'elle regarde vers les temps reculés, c'est évidemment de moquer les travers un peu barbares, soit du Moyen-Âge, soit de la Grèce ou de la Rome antique.
Alors, on va écouter des larges extraits, on s'est dit, puisqu'on a deux enregistrements, celui qu'on vient d'entendre, qui est un enregistrement qui a permis de faire un disque qui est vendu après le spectacle.
Exactement, un disque souvenir uniquement après le spectacle. Il faut venir voir le spectacle, écouter le spectacle
pour avoir accès au disque. Et puis l'autre enregistrement qui a été réalisé à Bordeaux, qui était la première de la tournée. Hein.
Absolument, c'était un moment très important. Et puis le premier rodage des chanteurs quand même pour cette grande aventure qui a duré jusqu'à ces semaines.
Qui dure encore jusqu'à Rennes.
Jusqu'à fin mars,
bientôt.
Et donc France Musique est venue enregistrer toute la soirée à Bordeaux, la première soirée de Bordeaux.
Voilà une belle aventure autour de l'opérette sur laquelle on va revenir. On va peut-être réécouter tout de suite un autre extrait, mais vous allez peut-être nous mettre un peu en situation, puisqu'il s'agit du duo Médor-Angélique sur la question, mais qu'est-ce que c'est que l'amour? Enfin, on comprend assez bien d'ailleurs quand on écoute les paroles, mais plus précisément, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Donc Angélique, la fille du duc Rodomont, a un précepteur, c'est Merlin, le fils du vrai Merlin, Merlin l'enchanteur, et ce même Merlin délègue à un certain Médor.
Oui.
Et ce Médor a pour charge l'éducation de cette jeune fille qui, donc, puisque c'est une jeune fille, ne connaît rien à l'amour.
J'aime maman, chez mon papa. Chercher, chercher, ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça.
Ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça.
Ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça.
Ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça.
Ça n'est pas ça.
Lara Neumann dans le rôle d'Angélique, Emmanuel Nunez Camellino, donc qui est le jeune ménestrel dans ce joli duo, extrait des Chevaliers de la Table Ronde d'Hervé, une œuvre qui fait le tour de France et c'est pas si fréquent pour un opéra bouffe qui plus est complètement oublié. Donc cette œuvre de l'excellent Florimond Rongier dit Hervé, œuvre donc qui a été créée en fait Alexandre Dradviki au théâtre des Bouffes Parisiens.
Oui, et
c'était le théâtre d'Offenbach qui était le concurrent d'Hervé. C'est toute une histoire.
Et à un moment tout à fait stratégique, puisque à ce moment, en 1866, Offenbach se brouille avec la direction des Bouffes Parisiens, quitte le théâtre. Et donc, on imagine très bien le directeur revanchard décidant de faire venir dans le théâtre d'Offenbach son concurrent Hervé, et certainement lui donnant les moyens de faire une œuvre qui puisse vraiment concurrencer Offenbach. Et c'est pour ça qu'on est dans un grand trois actes avec autant de solistes. Parce que je pense qu'on a donné à Hervé les moyens de faire une vraie concurrence à Offenbach à ce moment-là.
Oui, c'est ça, parce qu'il s'était concurrencé, rapproché aussi à leur début, plutôt dans le répertoire des petites opéras bouffes en un acte. Et là, évidemment, entre-temps, Offenbach a connu la gloire avec les grands opéras bouffes. Et on peut dire qu'Hervé donc, vient sur ce terrain. À partir des Chevaliers de la Table Ronde, il y a aussi L'Œil Crevé à peu près au même moment. Enfin.
Mais en fait, la tétralogie d'Hervé, comment juste après, c'est donc l'année suivante, en fait, avec L'Œil Crevé, avec Chilpéric, avec
le petit Faust.
Et en fait, la vraie première grande œuvre d'Hervé,
c'est les Chevaliers. Sauf que c'est la moins connue des quatre. Mais ça, on va y revenir. Alors, il fait appel à deux librettistes qui sont parmi les plus importants de l'époque, hein, Chivot et Duru. On leur doit Les 100 Vierges de Lecoq, La Fille du Tambour-Major, La Mascotte d'Audran, etc. Ça se passe comment, le travail entre Hervé, Chivot et Duru? Ce choix, d'ailleurs.
On n'a pas de traces.
Hervé a souvent écrit lui-même ses livrets.
Mais oui, justement, on est quasiment sûr que Hervé a contribué de manière importante à l'écriture du livret, parce qu'on retrouve dans Les Chevaliers des choses qui datent des œuvres de jeunesse écrites par Hervé, et d'ailleurs dans des œuvres plus tardives, L'Œil Crevé, c'est un livret d'Hervé par exemple. Oui. On retrouve des choses typiques d'Hervé.
Après, par exemple,
le principe d'aparté avec la salle. On n'a pas ça dans Les 100 Vierges, on n'a pas ça dans ces opérettes de Lecoq ou autres, et typiquement dans Les Chevaliers, on a ce que Hervé fait partout ailleurs, c'est-à-dire de prendre à partie le public de manière complètement déconnectée de l'intrigue. Alors il y a plein de choses comme ça, mais par exemple celle-là est celle qui revient assez systématiquement tout au long des Chevaliers.
C'est un livret réussi ou pas? Enfin, vous n'allez pas dire le contraire, là, vous avez organisé la tournée, mais...
Mais si, si, attendez Benoît, parce qu'on peut quand même préciser qu'il y a deux versions des Chevaliers, oui. Et qu'en 1872, donc là on est en 66, en 72 la deuxième version nous a semblé à tous collégialement beaucoup moins drôle, sans doute parce qu'après la guerre de 70, on a dû un peu édulcorer...
L'esprit a changé,
voilà. Et donc, si, si, il y a un livret plus réussi qu'un autre, et donc on peut dire que celui-là nous plaît, l'autre nous aurait moins convaincus s'il avait fallu
le mettre en scène. Mais la critique, au moment de la création, était un petit peu réticente, notamment sur le livret.
Surtout, mais c'était pas le moment. Il y avait tellement de créations de choses importantes à Paris en 66 qu'on a dit que finalement la chose la moins importante à aller écouter, c'était Les Chevaliers.
Bon, donc le public de 2016 est plus enthousiaste que celui de 1866.
Plus intelligent.
Plus intelligent. Christophe Graffron, la partition, elle ressemble à quoi, l'original?
Une sorte de grand fatras. Une sorte de grand palimpseste.
Ah oui.
Où en fait Hervé corrige au fur et à mesure, rajoute au fur et à mesure. Et en fait, parfois, on avait...
Vous aviez un piano chant avec des parties séparées
alors,
pour les instruments?
Ça a été la première chose qui a été retrouvée. Alexandre a fait des recherches à la Bibliothèque nationale. Et donc, on avait le piano chant. Et puis ensuite, on a redécouvert la partition d'orchestre.
Et comment est-ce qu'on retrouve une partition d'orchestre de l'époque?
Alors, on a de la chance avec Hervé parce que le fils d'Hervé a fait un leg à la Bibliothèque de l'Opéra, Bibliothèque nationale à l'époque.
Il y a presque tout.
Alors, en fait, non. Ça s'appelle Fonds Hervé. On voudrait qu'il y ait tout. Il n'y a pas tout, mais il y a ça. Et alors, le problème de cette grande partition, c'est qu'en fait, il y a la deuxième version qui est écrite sur la première. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les modifications de la deuxième version sont faites sur la première avec des épingles, des collettes, des coupures, des réécritures. Donc, ça fait un bazar pas possible qu'on pourrait éditer de nos jours, mais ce serait un travail effroyable.
Alors, on va retrouver tout de suite un des personnages des Chevaliers de la Table Ronde. En fait, les Chevaliers, ils sont cinq, hein, mais oui. Il y en a un seul qui a un rôle important, qui est Roland. Mais par contre, il y a beaucoup d'autres personnages, à commencer par le duc et la duchesse. Mélusine, la magicienne, voilà, etc. Donc, le duc qui est allègrement trompé par sa femme.
C'est ça, on a le trio de le duc Rodomont.
Oui.
La princesse Totoche.
Totoche.
Qui lui, effectivement.
Médor et Totoche.
Exactement. Et qui lui est infidèle. Avec le conseiller du duc, Sacripant.
Voilà. Alors, ici, c'est donc Rodomont, chanté par Damien Bigourdan. Et c'est l'enregistrement de la version en public.
La création à Bordeaux.
À l'Opéra de Bordeaux.
Mon œil est assez vif. Ma figure serene e pourtant dans cœur tout est en désarroi car depuis bien longtemps je tiens une déveine et tout semble en ses lieux conspiré. Je suis dans la détresse et je n'ai pas dans ma caisse le plus léger Monaco assurément pas moi, puisque ma poche est vide et que dans nul endroit on ne me fait crédit. Donc alors, patience, bientôt, je le saurai dans un flot de vengeance. Je m'abreuverai par la mort Dieu, car au monsieur, par la mort Dieu, car au monsieur, car 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 car
car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car
car car car car car car car car
car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car
car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car
car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car
car car car car car
car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car
car car car car car
car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car
car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car
car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car
Alexandre Radvicki, vous n'avez pas fait encore de Offenbach au Palazzetto Rosanne.
Non, c'est comme Berlioz, c'est interdit. non, détrompez-vous, parce que vous savez que le bicentenaire Offenbach approche à grands pas et que chez Offenbach, il y a quand même plein de choses à faire découvrir.
C'est
donc on y mettra notre grain de sel.
Mais la bonne nouvelle pour nous, en tout cas, c'est que ça fait maintenant quelques années, ça a commencé avec Ali Baba, que vous montrez un intérêt qui, j'espère, ira croissant pour le genre opéra bouffe, opérette, on appelle ça comme on veut, enfin cette fantaisie théâtrale en musique qui a apparu, on peut dire, à la fin du romantisme, puisque vous êtes le centre de musique romantique.
Et Benoît, est-ce que vous m'autorisez à vous faire plaisir ?
Ah oui, oui,
eh ben
oui,
alors,
oui.
Je vais vous annoncer que c'est une démarche tout à fait officielle du Palazzetto. L'idée, c'est de remonter chaque année, enfin on va essayer en tout cas, une opérette importante.
Ah, ça, c'est une bonne nouvelle,
et
ça.
Je vous parle de ça pour les décennies qui
pour
viennent.
Pour les décennies qui viennent, ça c'est formidable, heureusement. Vous êtes là parce que la situation dans les théâtres français n'est pas toujours si bonne que ça pour le genre qui nous est cher. Et
oui, pendant la petite quinzaine d'années qu'on a derrière nous, Brigand, en fait, on a peut-être aussi renoué avec avec la foire, avec les tréteaux, c'est-à-dire pas être dans les maisons officielles.
Certes.
Mais d'aller dans des endroits peut-être plus reculés.
Mais sans du tout vouloir, minimiser l'importance du travail autour des chevaliers de la table ronde, c'est bien aussi quelquefois que l'orchestre entier et la maison d'opéra tout entière se mettent au service de ce répertoire.
Et je dirais que les chevaliers, cette première année, c'est quand même notre première expérience déjà commune avec les brigands et puis sur ce répertoire-là en production. Ce qui est intéressant, c'est que grâce à cette complicité avec les brigands, on a pu faire tourner dès la première saison les chevaliers aussi bien dans des petites salles que dans des salles très officielles. On était jusqu'au Théâtre Malibran qui est l'annexe de la Fenice à Venise. Et je pense que ce qui doit servir ce répertoire, c'est cette possibilité caméléon d'être dans tous les lieux de concert. Non pas seulement dans les grandes maisons, parce qu'il ne faut pas faire de ce théâtre un théâtre officiel, poussiéreux et trop sérieux. Il ne faudrait pas faire ça que dans des maisons de 2000 places. Il faut le contact avec le public dans les petites salles. Mais l'inverse pourrait être aussi triste, parce que ce serait se dire on cantonne l'opérette aux petites salles.
Mais l'autre option serait, je veux dire, d'avoir une version avec grand orchestre et une version avec petite formation.
Benoît, est-ce que je peux vous faire plaisir à nouveau?
À nouveau, faites-moi plaisir.
Et puis, je ne vais pas parler trop longtemps, mais si vous voulez, notre seule tristesse, notre seul regret en interne au Palazzo Vecchio pour le moment avec ces chevaliers, c'est que finalement, on sortira de peut-être 3 saisons de tournée, puisqu'on en est à parler de 3 saisons de tournée, sans avoir enregistré la grande version avec orchestre. Et donc, notre réflexion actuelle, c'est qu'à l'avenir, alors je ne sais pas si on arrivera à commencer à chaque fois, mais qu'on puisse présenter les œuvres dans la version complète, chœur orchestre, l'enregistrer en livre-disque dans notre série Opéra français, alors qu'il y a Opéra et Opérette française, et proposer la version de poche en parallèle de la grande version. Et je pense que là, la mission scientifique sera faite, mais la mission de diffusion sera aussi accomplie.
Alors, votre collection de livres-disques, vous venez de l'évoquer, bon, c'est pas le sujet de l'émission, aujourd'hui on se concentre un peu sur Hervé, mais néanmoins, c'est vrai que c'est quelque chose de fascinant. Moi, depuis maintenant quelques années, je reçois régulièrement des ouvrages complètement oubliés, et ça, il faut dire, vous êtes vraiment celui qui va chercher dans les contrées les plus inattendues, et par exemple, on va écouter tout de suite une petite danse extraite de Dimitri de Victorin Joncière, compositeur dont j'ai entendu 10 fois le nom, mais jamais une seule note. Mais comment est-ce que vous avez pu avoir l'idée d'aller rechercher Victorin Joncière?
Comme vous, Benoît, c'est-à-dire que c'est un nom que j'ai vu aussi passer des dizaines de fois.
Et vous êtes dit, mais qu'est-ce que c'est?
Mais ces gens-là, ils ont été créés à l'opéra comique, donc il faut au moins qu'on en entende une œuvre pour se faire un avis.
Et moi, pour décider qu'on n'en montrera pas d'autres, ou pour décider qu'on continuera.
Dimitri mériterait bien qu'on continue à travailler sur Joncière, à mon avis.
Alors, on va écouter cette petite musique de ballet extraite du 3e acte et dirigée par Hervé Niquet.
Thank you.
Kolomiaka, une danse russe de Victorin Joncière dans son opéra Dimitri, dirigé par Hervé Niquet, qui est un de vos fidèles partenaires, on peut dire, hein, Alexandra Dvicky, dans toute cette aventure de redécouverte.
Ah, mais rien ne fait peur à Hervé Niquet.
Voilà, donc, il est toujours partant.
Ah, mais c'est, il y en a comme ça quelques-uns, d'ailleurs, comme François-Xavier Roth, que je cite avec plaisir aussi. C'est des gens, vous leur donnez n'importe quoi et ils vont essayer d'en tirer le meilleur, et je trouve qu'ils y arrivent assez régulièrement.
Et donc voilà, d'autres choses sortent encore ces derniers temps. On pourrait signaler un opéra de Félicien David.
Enfin, Herculanum,
Herculanum. Marie-Jaël, compositrice très très peu connue, que vous nous avez fait redécouvrir l'œuvre. Et bientôt Benjamin Godard.
Alors Benjamin Godard, puis je vous annonce le prochain livre d'Ix, ce sera Saint-Marc de Gounod, qui va sortir dans quelques mois, et je pense qu'il méritait bien un de son enregistrement aussi.
Je reviens quand même au choix que vous faites, Alexandra Dvicky, je vous titille un petit peu. Par exemple, revenons au cas d'Hervé. Pourquoi aller chercher une œuvre complètement oubliée, qui n'a pas tellement marché à sa création, plutôt que déjà simplement faire redécouvrir les œuvres principales, qui elles-mêmes sont quand même objectivement complètement oubliées? Vous avez cité tout à l'heure L'œil crevé, Le petit Faust, ou encore Chilpéric, qui mériterait peut-être bien de revenir.
Alors,
aussi à la fin.
Souvent,
on sent que vous avez un goût, une passion d'ailleurs qui est très utile pour nous, mais plus pour la chose vraiment rare que pour celle qui serait simplement oubliée.
Ben, c'est pour pas avoir le syndrome de la facilité. Parce que sinon, on va prendre tous les tubes du 19e qu'on ne fait plus et on va vous dire, voilà. Mais cela dit, le Pré au clair ou des choses comme ça, c'est bien ça.
C'est bien
des,
ça.
Des tubes absolus.
C'est vrai, voilà. C'est vrai.
L'autre chose, je vous le disais, mais il faut vraiment se dire que c'est une donnée très importante de nos jours, ce sont les titres. Pour Lecoq, le choix d'Ali Baba.
Ali Baba, voilà. Vous auriez pu. Il y avait 10 opérettes de Lecoq qui avaient mieux marché de son vivant.
Giroflée, Giroflée, aujourd'hui, une affiche dans le métro. Giroflée, Giroflée, c'est difficile à remplir. Ali Baba, les gens viennent. Et alors, si vous voulez, la stratégie, c'est de se dire, voilà, avec un titre qui marche, les gens vont se dire, Hervé, ça marche bien. Et donc, le prochain.
Et vous en avez la confirmation avec la tournée?
Les gens sont redemandeurs de la prochaine production. Et donc, on se dit que le prochain Hervé ou les prochains Hervé, puisqu'on va certainement dérouler ce fil rouge un certain temps, pourront avoir des titres beaucoup plus difficiles.
D'accord.
Bon, vous avouerez, Benoît, que imaginez que vous êtes un spectateur lambda, même si vous ne l'êtes pas du tout, mais est-ce que L'œil crevé est un titre qui fait envie en 2016?
Non. D'ailleurs, il y avait un autre titre qui s'appelait Vlan dans l'œil, qui est plus amusant.
Ben, je crois que si on remonte cette opérette un jour, ce sera sous ce titre-là et pas sous le titre de L'œil crevé.
Alors, je vais quand même, moi, pour le plaisir, puisqu'on est à la radio, rappeler que, fort heureusement, Hervé a une espèce de cote extraordinaire dans cette maison dans les années 50-60. Alors même qu'on n'a pas enregistré tout Offenbach, ou on a enregistré beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Hervé sous la direction de Marcel Cariven, qui était très, très passionné par ce compositeur. Et donc, on a quand même beaucoup de documents. Malheureusement, pas les Chevaliers de la Table Ronde. Grâce à vous, maintenant, on les aura. Et j'ai ressorti, voilà, un petit extrait de la chanson célèbre en son temps, de la langouste atmosphérique, surréaliste avant l'heure, extraite, justement, de Chilpéric d'Hervé et chantée par Aimé Donia.
Sur les rives de l'Adour, là s'y trouva son pasteur.
Tiens, c'est l'Auvergnat.
Oh, ignorante, c'est la langue de l'immortel jasmin. Doux, naïf, exempt de vice, et qui échasse les escrovices. Il disa sous mon bon Dieu, de bien scoutarer mon rêve. Si m'accordas fortuna, jour le jour à part la luna, sur les bords de ce canal, j'vous bâtis un hôpital.
Un hôpital, comme c'est gai.
Écoutez bien cette histoire véridique, c'est celle de la langouste atmosphérique, la corrida, la corrida, sautez, dansez. Trompette et basse, tenez la tournelle, trompette en bourre, en avant la pastourelle, la corrida, la corrida, good morning, sir. À vous, charmante dindonnette.
Puis sur l'œuf, l'eau rassurée, parut un poisson doré. Qui portait l'herbe magique sur sa coupe magnétique. Il invita le pasteur à cueillir l'herbe d'amour. Et notre homme étant en booste, mangea l'herbe et la langouste, oubliant dans son erreur qu'il croyait
coquets sont bien faiteurs. Oh, l'ingrat!
Voilà, voilà, cette histoire véridique, c'est celle de la langouste atmosphérique. La corrida, la corrida, sautée dans ce... Ton petit bras, son nom est la ritournelle, ruffle ton bourre, on appelle la pastorelle. La corrida, la corrida, coup de bourre et il ne sort.
La légende que je sais a 70 couplets. Pour qu'elle vous fasse passe, des autres je vous fais grâce. Mais la morale à la fin doit terminer le refrain. Comme la pauvre écrevisse ne rendait jamais de service, il vaut mieux renflouer les gens que de les voir vivre à vos dépens. Voilà, voilà, cette histoire véridique, c'est celle de la langouste atmosphérique. La corrida, la corrida, sautez, passe. Trompette et basse, entonnez la tournelle, ruffle tambour en avant la pastorelle. La corrida, la corrida, good morning, sir.
Voilà, donc cet extrait de Chilpéric, une œuvre d'Hervé, parodie médiévale, genre très répandu à l'époque, puisqu'il y a aussi la Geneviève de Brabant d'Offenbach. Et c'est lié d'ailleurs, je pense, à Alexandre Radvicki, aussi à la passion du monde intellectuel français de ce 19e siècle pour le temps du Moyen-Âge qui est redécouvert juste à la même époque.
Hein. Il faut savoir que l'une des héroïnes des Chevaliers s'appelle Mélusine et que Mélusine, oui, c'est aussi le rôle principal de la magicienne d'Halévy créée en 58. Là, on est en 66. Et à ce moment-là, la magicienne triomphe encore à l'opéra. Donc forcément, pour les gens de l'époque, la Mélusine de l'opéra est parodie dans cette Mélusine des bouffes parisiens. Donc, il y avait un rapport entre les œuvres qui était évident, qu'il n'est plus du tout pour nous aujourd'hui.
Et ce qu'on a d'ailleurs dans ces Chevaliers de la Table Ronde que vous nous proposez en ce moment, pour notre joie, des vraies parodies musicales identifiables, comme on en trouve pas mal chez Offenbach ou chez Hervé dans d'autres ouvrages, par exemple dans Le Petit Faust, on connaît les modèles détournés ici.
Oui, alors Alexandre pourra dire des choses très précisément. Pour moi, il y a davantage une parodie de l'esprit plutôt qu'une parodie de la lettre.
D'accord.
Ce qu'essaye de montrer Hervé, c'est vraiment son propre catalogue.
Ah oui, c'est ça, oui. D'ailleurs, on connaît vraiment son style musical.
Voilà, et que lui peut faire aussi bien que tous les autres maîtres.
Mais pour vous le dire en une phrase, les Chevaliers allaient être scrutés par tout Paris. C'était la création bouffe parisien, l'entrée d'Hervé au bouffe parisien. Je pense qu'il a voulu montrer aussi ce qu'il pourrait faire dans des registres plus sérieux. Le final italien de l'acte 2, le faux final, c'est un grand cantabile, tempo di mezzo cabalet, tout à fait sérieux musicalement, pas dans le texte. Et il montre qu'il aurait pu faire du théâtre italien. Et puis, prenons juste l'exemple de l'air de Roland, qui est ajouté en 72. L'air de Roland commence, à mon avis, ce n'est pas une parodie, c'est une imitation sérieuse de l'air de Vasco de Gama au pays merveilleux dans l'Africaine qui a été créé en 69 si je ne me trompe pas. Et donc en 72, Hervé nous montre qu'il pourrait faire un grand air de ténor sur la poétique de la découverte d'un nouveau monde, en l'occurrence c'est le palais enchanté de Mélusine. Et le début de l'air de Roland, c'est pas drôle du tout, c'est pas parodique, c'est Hervé qui dit « moi je peux faire aussi bien que Meyerbeer ».
Il y a une espèce de catalogue
des capacités d'Hervé.
Des capacités d'Hervé dans cet ouvrage, mais y compris des choses vraiment drôles.
Ah, y compris des choses vraiment drôles, oui.
Donc, je le disais, c'est une coproduction Palazzetto Bruzane et Les Brigands. Ça viendra s'installer aussi dans quelques mois, dans la saison habituelle des Brigands à l'Athénée.
Exactement, on a la chance de revenir au théâtre de l'Athénée qui sera tout neuf.
Voilà, et vous le présenterez cet hiver.
Voilà, c'était décembre, janvier.
Donc les Parisiens pourront voir pas mal de présentations.
Voir et écouter les Chevaliers de la Table Ronde au théâtre de l'Athénée, oui.
Sinon, ça va, les Brigands?
Les Brigands vont très bien, oui.
Vous avez d'autres projets?
Pas pour l'instant, peut-être l'année prochaine.
Mais vous gardez le cap, opérette,
oui, exactement.
Opéra comique, comédie musicale, enfin.
Théâtre léger.
Théâtre lyrique léger.
19e, 20e siècle.
Bien, alors on va revenir un petit peu au Chevalier de la Table Ronde avant de se quitter avec plusieurs extraits que j'ai choisis. Mais d'abord, peut-être on faudrait qu'on redise un mot de la production elle-même et notamment d'ailleurs du metteur en scène dont on n'a pas prononcé le nom. Bon, on est à la radio, mais enfin quand même.
Pierre-André Weitz, oui. C'est d'autant plus important parce que il faut bien dire qu'au-delà du magnifique travail qu'il a fourni, c'est sa première mise en scène complète puisque Pierre-André est quelqu'un qui travaille beaucoup et depuis longtemps avec Olivier Py, mais dont il est le scénographe, le costumier. Ici, Pierre-André Weitz signe sa première mise en scène et s'est occupé aussi...
Il a choisi ce genre pour...
Des
pour...
décors et des costumes. Oui, en fait, c'est aussi assez étonnant quand on connaît les mises en scène d'Olivier Py, c'est qu'en fait, Pierre-André révèle toute une partie de cette âme d'enfant qu'il a voulu absolument préserver et qu'il a voulu, en fait, convoquer pour cette mise en scène. Et je dois dire que son rapport aussi, il nous a dit être passionné du cirque, et ça se voit dans cette mise en scène, parce qu'il y a tout cet imaginaire enfantin qui est, à mon avis, tout à fait à propos par rapport à l'humour d'Hervé.
Et vous qui avez, Alexandre Dradvicki, un vrai goût pour la redécouverte des ouvrages, je dirais, dans leur vraie couleur, dans leur vrai style, est-ce que vous avez ce genre d'exigence aussi quand vous discutez avec les coproducteurs du choix d'un metteur en scène?
On essaye... de se concentrer d'abord sur la rareté de la partition, le respect de la partition, le casting et la question de la langue française par rapport à ce casting et sur le coaching français.
Ça fait partie des critères essentiels. Voilà. Merci, tant mieux.
Bon, alors, bon, je ne sais pas si ça marche à chaque fois, mais en tout cas, c'est l'idée de départ. Ouais. Et c'est vrai que, pour le moment, en tout cas, la question des metteurs en scène, on veut bien la déléguer ou en tout cas écouter très sérieusement les propositions de maisons qui sont habituées depuis longtemps à travailler avec des metteurs en scène, ce qui n'est pas notre cas. Mais je dois dire que le grand plaisir, par exemple, avec Pierre-André, et je pense que c'est très important de le souligner, c'est qu'il a souhaité que le livret de 1866 soit respecté intégralement à une ou deux micro-adaptations près.
Ça,
et donc,
bien.
On peut entendre ces chevaliers avec le texte d'origine non coupé, non actualisé.
Voilà.
Et ça marche.
Pas de blagues contemporaines au milieu des scènes médiévales.
Aucune. Et du coup, si vous voulez, je pense que c'est une autre chose, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, l'opérette, on peut la refaire, mais arrêtons de lui couper la tête et les jambes comme on fait souvent, respectons le texte et soyons assez inventifs pour rendre ce texte actuel et drôle.
Alors, on va écouter ce grand air de ténor qui est plus vers la fin de l'ouvrage, que peut-être vous pouvez nous resituer.
Voilà, Roland se réveille d'un puissant somnifère que Mélusine lui a administré pour pouvoir le kidnapper. Et
Mélusine, c'est la magicienne.
L'enchanteresse Mélusine, voilà. Exactement. Et donc, il est dans le palais de Mélusine et il se réveille au bout de 15 jours. D'un profond sommeil, et il se demande où est-ce qu'il est, et plein de souvenirs, de réminiscences remontent à la surface.
C'est juste de la belle musique.
C'est exactement.
C'est agréable. Nous saluons tous les soldats.
Rémi Mathieu, alias Roland, le chevalier errant des chevaliers de la table ronde d'Hervé. Hein, vraiment de la belle musique, hein, Alexandre Radvicki. Merci de nous faire redécouvrir cette œuvre vraiment, effectivement, étonnante. Et donc, apparemment, couronnée de succès avec combien de représentations au total?
35 dates, mais ça, c'est grâce aussi à la compagnie des Brigands et à tous ces artistes engagés dans le projet.
Il faut relativiser, parce qu'autrefois, un succès, c'était 350 dates. Aujourd'hui, oui. 35, c'est énorme.
Je trouve que c'est énorme aujourd'hui, effectivement. Et donc oui, ces chevaliers ont l'air de très bien fonctionner et de rencontrer leur public un peu tard, mais de le rencontrer finalement.
Voilà, ils seront donc de retour à l'Athénée cet hiver, c'est avec ça. Toujours vous.
Exactement, l'Orchestre des Brigands, l'équipe de chanteurs de la création et au Théâtre de l'Athénée.
Ça vous laisse le temps, Christophe Grapperon, tout ça, de monter encore un peu de temps en temps sur scène, de chanter, de jouer
Non, maintenant je suis que en fosse. Plus
du tout, oui. Fini.
Je ne chante plus sur scène, disons. Je chante du madrigal, je chante de la musique de chambre, mais pas drôle.
Bon, en tout cas, vous continuez à la défendre très bien. Et merci d'avoir été avec nous ce matin. Alexandre Radvicki, vous ne pouvez pas nous en dire un tout petit peu plus sur vos projets dans le genre de l'opérette?
On ne va pas faire de grands secrets, mais laissons planer les mystères. Si, peut-être vous dire qu'on pense qu'Hervé est un fil rouge que nous devons déployer sur plusieurs années, parce que je crois que s'il y a un compositeur que le Paletot doit faire revivre et réinstaller le répertoire, c'est sans doute Hervé. Et puis, bien, entre les projets Hervé qui arrivent, pensons à Messager, à Lecoq, à Serpette, à Audran et aux autres.
Est-ce que votre appellation, Palazzetto Bruzzan, centre français de musique romantique ou de musique romantique française, est-ce que ça vous interdit d'aller jusqu'au XXe siècle et de monter éventuellement un Reynaldo Hahn ou un compositeur beaucoup plus proche de nous?
Absolument pas. Et vous savez qu'on a sorti il n'y a pas longtemps un très gros livre sur Reynaldo Hahn, par exemple. Nous, on va accompagner tous les compositeurs qui ont des grandes périodes post-romantiques comme Gustave Charpentier, comme justement Reynaldo Hahn, Max Dolon, Henri Rabaud ou d'autres. Ce qui compte pour nous, c'est que le langage soit romantique et il peut l'être encore en 1950.
Bon, alors ça laisse beaucoup de possibilités.
Absolument.
On se quitte avec deux extraits, donc toujours de ces Chevaliers de la Table Ronde. Un qui vient d'ailleurs de l'enregistrement disque dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'air de Merlin. Donc l'enchanteur Merlin qui est un fil conducteur un peu de l'histoire.
Ici, hein. Merlin est un charlatan, voilà. Que c'est pas le vrai enchanteur.
Et puis, la scène de Totoche, rappelez-nous peut-être ce qu'on va entendre et le sens de ce passage.
C'est le faux final de l'acte 2. Voilà. En fait, Rodomont vient de découvrir une partie du poteau rose, et donc c'est le principe des grands cantabiles donizettiens, arrêt sur image, chacun en aparté exprime son sentiment, et ce sont donc les grandes structures italiennes que Verdi va encore développer à la même époque.
Voilà, sauf que c'est pas un vrai final, c'est un faux final.
Parce que ça continue derrière.
C'est ça, il y a encore un autre final derrière.
Et ben merci à tous les deux, et j'espère à bientôt. Dans cette émission, vous êtes évidemment toujours bienvenus pour parler de ces belles choses.
Merci Benoît.
Merlin, je suis Merlin, successeur et fils de son père. Mon père était un gros malin, je suis malin comme mon père. Et moi-même en tout lieu, j'opère. Je suis Merlin, je suis malin, malin Merlin, Merlin malin, je suis malin comme mon père. En tout lieu, moi-même j'opère. Droguiste, dentiste, maître d'école, parfumeur, légiste, chimiste, avocat, barbier, enchanteur. Je suis un peu de tout cela, parler, demander et me voilà, 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 me voilà. Je suis Merlin, le fils de son père. Mon père est peut-être un gros malin. Je suis malin comme mon père. Et moi-même en tout lieu, j'opère. Je suis Merlin, je suis malin. Madame Merlin, Merlin malin. Je suis malin comme mon père. En tout lieu, moi-même j'opère.
Ingrid Perruche et toute la compagnie des Brigands dans cette production des Chevaliers de la Table Ronde d'Hervé, que vous pourrez donc retrouver à l'Opéra de Rennes. Ce sera au mois de mars, du 18 au 22 mars, et puis à la fin de l'année, vous le savez, donc à Paris, au Théâtre de l'Athénée. Je vous signale aussi la parution de Hervé par lui-même, un recueil de textes d'Hervé, édité par Actes Sud et le Palazzetto Brusane. Et puis sur le site de notre émission, étonnez-moi Benoît, francemusique.fr, vous pouvez aussi retrouver la vidéo du spectacle qui a été filmée par France Télévisions lors de la production de Venise et qu'on trouve également en haute définition sur le site Culture Box.
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Allô la disco ?
Allô la disco ?
Allô la disco ?
Allô la disco ?
Et avant de retrouver Martin Péné, juste une petite chanson, une merveilleuse petite chanson que je vous ai mis de côté depuis longtemps grâce à nos amis de la discothèque de Radio France. C'est la chanson du film Moi et l'impératrice, un film de 1933. Et la chanson donc de Hollander pour la musique, de Jean Boyer pour les paroles, est chantée par Drena et son orchestre de Montmartre, un vieux 78 tours Columbia. Ça s'appelle Loin de toi.
Bien lourd, ma vie était insipide, les heures coulaient toutes vides, mais croisant par hasard ton regard, soudain j'ai senti en moi les mois, c'est pourquoi depuis ce jour béni, où s'ouvrit pour moi le paradis, souvent je me dis, jamais je ne pourrai vivre loin de toi, aucun baiser ne m'enivre loin de toi. Dès que je te vois paraître, je sens ma gaieté renaître, et tout frisson à mon être, pourquoi ? Parce que je me sens triste, loin de toi. Parce que plus rien n'existe, loin de toi. M'offrirait-on un empire, je dirais pourquoi ? C'est toi que mon cœur désire, loin de toi. Parce que je me sens triste, loin de toi. Parce que plus rien n'existe loin de toi. M'offrirait-on un empire, je dirais pourquoi. C'est toi que mon cœur désire, loin de toi.
Monsieur Drena qui chantait cette merveilleuse mélodie créée par Liliane Harvey dans le film Moi et l'impératrice. C'était un disque Columbia CL4255 de notre discothèque de Radio France. Et une fois n'est pas coutume, Martin, bonjour, vous êtes là deux semaines d'affilée parce que bah, Georgius, quand même, ça mérite bien deux parties de chronique aujourd'hui. Donc, on s'était arrêté juste avant la guerre, je crois.
Eh oui, on va donc reprendre la guerre. Bonjour, cher Benoît. Et donc, ce Georgius que nous célébrons se situe dans la droite ligne des comics idiots du Café Concert, comme Dranem. Mais il va beaucoup plus loin, car il est également auteur de ses textes. Et dans le domaine de la chanson, nul n'avait su avant lui s'aventurer si loin dans la loufoquerie des paroles, l'extravagance des personnages, l'incongruité des situations. Et on comprend pourquoi des poètes surréalistes ont pu lui vouer une certaine admiration. Fernand Léger, par exemple, le considérait d'ailleurs comme le seul chanteur vraiment populaire. Et en plus de ses textes, Georgius avait d'extraordinaires dons d'interprète, à la fois chanteur, comédien et mime, avec une présence hors du commun, et toutes ses qualités en ont fait durant l'entre-deux-guerres l'amuseur public numéro un. C'est comme ça qu'on l'appelait. Et lorsque la guerre éclate, en septembre 39, c'est d'abord la drôle de guerre, et les Français se croient bien protégés par la ligne Maginot. De nombreux chanteurs se mobilisent pour encourager les soldats, et au mois de décembre, eh bien Georgius enregistre une chanson à propos des soirs d'alerte, intitulée « Dans la cave de ma maison », et surtout une autre contre Hitler, « Il travaille du pinceau ».
Les peintres en bâtiment sont des bons gars, généralement. Ils chantent en barbouillant leurs murailles en jaune ou en blanc. Parmi tous ces braves gens, il y en a un cependant qui a bien tout du fou. C'est un grand méchant loup. Oh oh, oh oh, il travaille du pinceau. Il a, comme dirait ma sœur, la folie des grandeurs. Oh oh, oh oh, il travaille du pinceau. Il se confie, se prend pour Attila. Bien sûr qu'il en crèvera. Tra-la-la-la, la-la, sous les roses. Il a une maladie plus grave que l'aérophagie. Paraît que ça lui fait mal, il appelle ça l'espace vital. Quand il s'en rétrécit, alors il pousse des cris et éclate de fureur. Il bave que ça fait peur. Oh oh, oh oh, il travaille du pinceau. Alors il rentre chez les voisins, il fauche tout sur son chemin. Oh oh, oh oh, il travaille du pinceau. Un jour il tombera sans plus de phrases sur un beau bec de gaz. Tra-la-la-la, la-la, sous les roses.
Georgius, formidable, en 1939, quand il se moque d'Hitler. Je signale Martin Péné, parce que j'adore cette scène aux cinéphiles qui peuvent, dans un film qui s'appelle N'avez-vous rien à déclarer, de juste avant la guerre, un film très drôle. On revoit Georgius chanter vraiment dans un cabaret toute une chanson, et c'est irrésistible.
Alors donc, nous vous le recommandons. Et alors, cette chanson que nous venons d'entendre, curieusement, sera vite oubliée et ne lui causera pas de tort durant l'occupation, alors que ça aurait vraiment pu. Et c'était pour lui une période de grande activité en ce qui le concerne, car de 1941 à 42, il a assuré la direction artistique du Théâtre de l'Étoile en renouvelant le programme tous les 15 jours. Et en plus, il s'est adjoint à la direction du Théâtre Antoine et dans ses établissements, il monte toutes sortes de revues, notamment Paris 1900, qui prolonge son expérience du théâtre chantant dont je vous ai parlé avant la guerre et la semaine dernière. Et il obtient un vif succès car il invite toutes les vedettes et il découvre de nouveaux talents. Alors côté chanson, il brocarde la mode Zazou avec Mon heure de swing, oui. Mais c'est surtout dans les difficultés de la vie quotidienne du moment qu'il puise son inspiration. Alors ça donne Méfie-toi de la patrouille, En vélo, Elle a un stock, Élevons un porc, Partir la veille.
Le marché noir, beaucoup.
Ah bah
hein.
Oui, mais vous allez voir, vous allez voir. Il manquait de tickets d'alimentation, Tout au gazogène, La campagne chez moi, etc. Alors il ne les a pas toutes enregistrées, mais tout de même suffisamment pour nous replonger dans cette atmosphère assez particulière.
On entend par des gens sévères parler du retour à la terre. C'est bien commun, inopportun. Moi j'ai compris en homme habile, j'apporte la campagne à la ville. Je dis sans bluff, ça c'est du neuf. Quand on y réfléchit à fond, c'était l'œuf de Christophe Colomb. J'ai la campagne chez moi. J'ai la campagne sous mon toit. J'ai un mouton sur mon balcon, un tout jeune veau sur mon piano. J'ai des canards dans un placard, un gros porc dans mon coffre-fort. J'ai des lapins qui font miaou miaou. Ils mangent pas d'herbe, mais du mou. Ce sont les chats de Mme Baudois que j'ai recueillis sur les toits. J'ai la campagne chez moi. Mais la campagne sans la rivière, c'est la ferme sans la fermière. C'est pas tangent, c'est indigent. d'une manière intelligente, j'utilise mon eau courante. Tout mon foyer n'est qu'un vivier. Grande culture et pisciculture, j'ai toutes les joies de la nature. J'ai la campagne, j'ai la campagne chez moi. J'ai la campagne sous mon toit. J'ai des ablettes dans le saut-toilette, un vieux maquereau dans ma chasse d'eau. J'ai des grenouilles dans ma gargouille, un merlan dans mon verre à dents. J'ai une morue qui folâtre et qui bouge. Dans le bocal au poisson rouge. J'ai des sardines, des anchois qui frétillent au petit endroit. J'ai la campagne chez moi. J'ai la campagne chez moi.
Ah, Georgius, on voudrait toujours aller jusqu'au bout, mais bon, faut en découvrir le plus possible avec vous aujourd'hui,
oui,
Martin Péné. La campagne chez moi, le marché noir, les réserves, les stocks pendant la guerre, ça fait penser aussi à la traversée de Paris.
Célèbre film.
Georgius, oui. En 1942.
Et oui, durant l'occupation, les restrictions et les prix ne cessent d'augmenter, ce qui rend la vie de la population bien difficile. Et du système D au marché noir, il n'y en a souvent qu'un pas que certains franchissent. On estime à plus de 20% le volume des transactions illicites. Et puis pour endiguer le phénomène, eh bien le secrétariat d'État au ravitaillement lance des campagnes d'affichage et crée un corps de contrôleurs mobiles chargés de surveiller les restaurants et les bars. Ils interviennent aussi dans les gares pour surprendre en flagrant délit de fraude les voyageurs aux valises trop remplies. Et Georgius est un des rares à évoquer la question dans une chanson de fin 43.
Que c'était un copain, quand je l'ai rencontré dans le train, il avait un petit œil malin. Alors je lui ai dit en toute franchise, je crains pas la crise dans ta valise. J'ai 3 jambons, 6 douzaines d'œufs, 5 kilos de beurre et du fameux, je ramène ça des environs de Dreux. Il m'a dit bravo, bravo, mais à la gare, v'là qui me déclare, suis-moi mon vieux. Il en était des brigades de contrôle, il en était et il me surveillait. Il en était, mais il jouait bien son rôle. Quand je lui parlais, c'est ça qu'il rigolait. Il m'a confisqué toute ma marchandise, ne m'a laissé que la poignée de ma valise. Il en était, que tout le monde trouvait ça drôle. Il en était, et puis moi, j'étais fait.
Bon, je dis rien.
Georgius,
il en était, voilà, il n'en était pas ce qu'on croit, mais il faisait des marchés noirs en 1943, Martin
Péné.
Et oui,
et donc jusqu'au printemps 44, Georgius chante sur scène, à la radio, enregistre des disques et monte des revues dans divers musicals, dont Bobino. Alors il faut dire aussi qu'il manque parfois de retenue dans ces temps difficiles, qu'il s'exprime dans la presse, ravivant en particulier un anti-maçonnisme qu'il nourrit depuis l'avant-guerre. Et à cette époque, il avait créé un syndicat d'artistes pour lutter contre le pouvoir des gens du métier, qu'on n'appelait pas encore le show business. Alors bien sûr, à la libération, ses excès lui vaudront d'être condamné par le comité d'épuration des artistes à 1 an d'interdiction, bon, comme d'autres, hein. Mais bon, lui, il a eu droit à ça. Et il écrit alors un roman assez amer sur la vie d'un collège, le lycée Papillon, où l'on retrouve les personnages de sa fameuse chanson. Il remonte sur scène à partir de 1946 dans plusieurs salles parisiennes et de province. Il enchaîne les revues, mais sans retrouver, il faut le dire, l'éclat de sa carrière antérieure. Il grave tout de même quelques disques 78 tours et les surréalistes lui rendent hommage encore en publiant une de ses pièces, La Folie Douce. Dans les années 50, Georgius fait un petit retour au cinéma et à la radio. On peut le voir dans le film de Julien Duvivier, Sous le ciel de Paris, puis l'entendre dans 2 numéros de la célèbre émission d'Henri Spade, La joie de vivre. Ainsi, je vais vous faire écouter, donc le 25 avril 1954, il vient chanter Les deux commères.
Chansonnette que j'ai faite comme ça sur des bavards, des dieux, ces cigares-là, une chanson que j'ai intitulée Les deux commères. C'est des chansons. Il s'appelle Madame Cloche. Et l'autre, Madame Cloche, je m'arrange, je t'arrive. Sur la place du marché, Madame Cloche et Madame Pluchet échangent 1000 petits potins sur le dos de quelques voisins. Madame Cloche n'a qu'un défaut, elle écorche tous les mots. Paraît que la fille de Monsieur le Maire vient de se faire arracher une meulière, ce qu'elle a dû souffrir. Madame Pluchet de son côté a tort de parler du nez. N'est pas possible, la pauvre enfant, elle qui avait de si belles dents, n'est enfant. Sur la place, chacun passe en souriant de leurs propos. Les commères, sans s'en faire, remettent ça aussitôt. Mais c'est pas ses dents à elle, c'est des dents artificielles, quoi. Elle a un râtelier aussi, comme vous et moi la chipie, comme je vous le dis, oui. Ah, Madame Pluchet, on en apprend tous les jours, allez. C'est me dites-moi à ce propos, est-ce que vous savez ce qui est arrivé à Monsieur Talerdin? Vous savez ce monsieur qui était dans la défense?
Bon, bah, on fera les intégrales à l'occasion, cher Martin Penet, parce que c'est bien ce document, INA 1954, Les deux commères par Georgius dans La joie de vivre.
Et oui, Georgius, finalement, préfère, comme il le dit lui-même, se retirer de la compétition. En 1954, il s'installe alors à Montfort-l'Amaury, dans les Yvelines, où il écrit des romans policiers sous le nom de Joe Barnet. Ouais,
j'ai même la liste complète que m'avait envoyé Patrick Modiano, qui s'intéresse beaucoup à Georgius aussi.
Et oui, et donc ce Joe Barnet, hein, c'est ça que ça veut dire, et donc il en publiera sous ce nom 7 dans la collection du Fleuve Noir, brocardant au passage Luis Mariano dans Mort au Ténor, et puis une autre dizaine de romans encore dans d'autres collections. Et son style vivant et fantaisiste en fait, à certains égards, un précurseur de San Antonio. Alors pour finir cette chronique, j'ai retrouvé à l'INA un autre document, la seule et brève interview connue de Georgius à la radio, réalisée en 1963 dans le cadre de l'émission 2 par 2. Il y rencontre le groupe vocal Les Gams et reprend avec elle son fameux succès d'avant-guerre, C'est de la bagnole.
Georgius, c'est toute l'histoire de la chanson. Depuis combien de temps ne chantez-vous plus?
6 ans à peu près, 6-7 ans. Je me suis retiré, vous comprenez, j'ai voulu quitter le public avant que ce soit le public qui ne me quitte. Alors, j'ai dit, je suis bien plus tranquille comme ça, surtout que j'ai su faire ma carrière d'une façon assez adroite pour vivre tranquillement. Alors, je suis tranquille, je vis à la campagne avec une femme, ma femme, qui est jeune, un petit garçon qui a 7 ans, qui est mon fils. Je suis un homme tout à fait heureux, j'ai une belle petite propriété. Quand je dis petite, enfin, j'ai une belle propriété.
Que faites-vous?
Dans ma propriété, je cultive mes rosiers. Et puis alors maintenant, je fais autre chose entre deux. J'écris des romans pour la série noire. Oui.
Des romans policiers?
Des romans policiers, oui. J'ai un contrat avec Gallimard. Alors, je fais ça quand ça me plaît. Non plus, je ne suis pas astreint à pondre un roman ou toutes les semaines, ou tous les mois, ou tous les ans. J'en fais un, des fois, je mets 2 ans avant d'en faire un. C'est pas pressé. Je cherche, quand j'ai une idée, je l'écris. Autrement, je ne cherche pas en me disant, je suis un pauvre type, faut absolument que je place de la copie.
Chantez-vous en soignant vos roses?
Oui, des fois, oui. Ah, ça, écoutez, moi, je chante en me réveillant le matin. Ça, c'est rien à faire. Je suis contrairement à ce qu'on a toujours prétendu que les comiques étaient des types tristes. Moi, je suis gay. Je suis gay de nature. J'aime plaisanter, j'aime blaguer. Et je n'aime que les gens gays, d'ailleurs, autour de moi. J'aime les gens jeunes, de caractère, s'entend, parce que je connais des vieux qui sont jeunes et des jeunes qui sont vieux.
Est-ce que une chanson de bagnole n'a pas été un de vos gros succès?
Oui, je pense bien. Je l'ai écrite en 1936. C'est amusant d'ailleurs cette chanson, je ne vous donnerai pas l'origine de cette chanson, mais c'est à ce moment-là j'avais déjà une bonne voiture pour l'époque, car enfin ma situation était déjà pas mal en 1936. Et j'avais une propriété en Normandie, et j'y allais très régulièrement, et je prenais ce qu'on appelle la route de 40 sous, et je prenais cette route, et régulièrement aussi je voyais justement des gens qui avaient des voitures d'occasion, qui étaient arrêtés à tous les 100 mètres, un avec son radiateur qui fumait, un autre avec l'huile qui coulait sur la route, un troisième qui réparait une roue, etc. Alors ça m'a inspiré, j'ai dit, en passant devant eux, je disais, ben, ça c'est de la bagnole, je me moquais un peu parce que j'en avais une très bonne moi à ce moment-là. Quand j'ai connu Mimi, j'ai voulu l'épater. Oui, mais pas riche, alors que faire? Lui offrir des bijoux, il n'y faut pas songer, et c'est pas...
Ça, c'est de la bagnole, un des grands succès de Georgius dont vous nous parlez ce matin, Martin Penet.
Oui, donc il sortira une dernière fois de sa retraite en 1965, le temps d'enregistrer un album 33 tours chez Philips avec ses grands succès réorchestrés dans la collection Air de France. Ensuite, il paraît encore à la télévision chez Jean-Christophe Averty, et Les Charlots enregistrent quelques-uns de ses succès. Il nous quittera en 1970 en ayant inspiré une génération de chanteurs loufoques, de Bobby Lapointe à Pierre Perret, en passant par Rissé Barrié. Alors si vous voulez en savoir davantage sur Georgius, il faut vous procurer le livre de Jean-Jacques Cholet, publié en 97 chez Christian Pirot, où figurent notamment les mémoires inédites de l'artiste.
Eh bien merci Martin Penet pour ce bel hommage à un chanteur qu'on adore. s'achève. Étonnez-moi Benoît, émission de Benoît Duteurtre préparée par Pauline Boisaubert. Aujourd'hui à la technique, Julien Calvas avec Annick Champagne, Elisabeth Gornescotto. Réalisation Christine Amadon. On se retrouve la semaine prochaine avec le flûtiste Bernard Vistrat. Bon week-end à tous.